L'exploitation a été conçue avec un projet, effectivement, un produit business. Une capacité de transport contrainte par le nombre. Donc 757 est apparu comme étant le bon vecteur en matière de dimensionnement, mais aussi en matière de range, puisque traverser l'Atlantique, on a 8-9 heures de vol en fonction des conditions météorologiques. Il fallait un avion capable de ça, 757, et était l'avion à l'époque idéal pour ça. L'avion est de technologie relativement ancienne, puisqu'il était conçu, certifié dans les années 80, et comme dans ce domaine-là, comme dans tous les autres domaines, la technologie pousse la performance. Et en particulier en matière de consommation de carburant, 757, qui est un excellent avion, se révèle être un avion dont la consommation est quand même importante. Vous savez que le prix du fuel est extrêmement évolutif, on n'a pas un contrôle sur ce facteur de coût quand même très important, suffisant en tout cas. Donc il nous est apparu assez rapidement, il a parlé à la compagnie qu'il fallait envisager l'après du 757. Le 757, c'est un avion de déploiement, mais pas de stabilisation et pas de développement ultérieur. Donc, on se retrouve en 2017, la compagnie a à peu près 3 ans. On a regardé l'offre de ce qui était possible. L'idée de base, c'était qu'on ait un produit à peu près similaire, voire légèrement amélioré en capacité. Ce que le 321 permettait, parce que nous sommes arrivés à une configuration 76, le max 9, le 10... était moins optimisé en matière de cabine. On a fini par fermer le dossier Max et se concentrer sur le dossier Airbus. Quant à la motorisation, effectivement, il y a deux offres sur le Neo, Pratt & Whitney avec son GTF et CFMI avec son Leap. Pour diverses raisons, mais en particulier celle des difficultés rencontrées par Pratt & Whitney sur le développement de son GTF, qui était un peu compliqué. La compagnie, le comité de direction, la direction générale, et j'ai partagé ça avec les actionnaires. J'ai présenté le projet du Neo et du choix du moteur CFM, LIP de CFMI. Et donc, c'est comme ça que le projet a été validé et que j'ai signé fin 2017 le contrat de location pour ces deux avions qui ont franchi les étapes successives de la fabrication chez Airbus, de la livraison. Le premier avion nous a été livré le 18 mai à Hambourg, avec un petit peu de retard par rapport à ce qu'on escomptait. Les deux avions que nous avons pris sont livrables un mois de mai, l'autre à la fin d'été, on va dire. Ce qui va nous laisser, on rend un 757 au moment où on reçoit le deuxième 321, ça va nous laisser donc un 757 juste potentiellement en 2021. Je dis potentiellement parce qu'il y a la possibilité de le restituer de manière anticipée. Le but qu'on s'est fixé, je fixe aux équipes, c'est d'évaluer nos capacités en marge des opérations sur Paris-New York et de Nice-New York l'été, d'envisager des compléments d'activité qui nous permettraient de justifier le remplacement du troisième 757 par un 321. La logique des compagnies, c'est quand même d'avoir l'unicité de la flotte. C'est quand même beaucoup plus simple à gérer sur le plan technique, sur le plan opérationnel, sur le plan des équipages. Les contraintes sont quand même extrêmement nombreuses aujourd'hui et parfois lourdes à gérer. Donc notre intérêt, c'est effectivement d'aller dans ce sens-là. Au-delà du gain de performance que le 321 apporte en matière de consommation de carburant, de fiabilité, d'agrément passager, si on arrive à trouver des projets qui sont porteurs, on ira vers l'apport de 321 supplémentaire à l'horizon 2021, c'est pas impossible. Le XLR, qui est encore embryonnaire, je pense qu'il a encore un range accru de 400 nautiques. C'est pour une phase, ce serait pour une phase autre dans le développement. Aujourd'hui, je n'ai pas le besoin pour cette performance-là, mais on n'est pas à l'abri de possibilités de développement, y compris dans la coopération avec XLR Way, si le cas se présentait. La compagnie pourrait être l'opérateur qui ferait la traction 321 pour le groupe, hein, sur du point à point entre des villes France et puis le reste du monde, où les A330 de la grande sœur au nord de Paris sont trop dimensionnés. C'est qu'une option un peu lointaine de ce stade-là, mais c'est une possibilité tout à fait envisageable si les équations, les modèles et les programmes d'engagement économique le permettent et le justifient. XL effectivement depuis le début de la semaine sur New York et maintenant sur New York en quotidien toute l'année. Alors qu'avant, jusqu'à l'année dernière, l'exploitation était saisonnière. Ça a arrêté début janvier pour reprendre en avril. Maintenant, on est installé chez XL Airways sur New York, mais en quotidien, avec la 330. L'ouverture de nouvelles lignes, c'est toujours un processus long, un peu compliqué, un processus de mesure de risque, un processus de partage de concepts, de plans avec les actionnaires, parce que immanquablement, ça nécessite des apports. Le développement d'une ligne nouvelle est forcément d'une rentabilité moindre sur la première année. C'est une discussion à avoir à plusieurs, mais il n'est pas du tout impossible qu'on y arrive dans les mois au pluriel qui viennent pour la compagnie.